premier lieu, j'aimerais remercier les organisateurs du colloque pour m'avoir invité et présenter un certain nombre d'éléments de mes recherches récentes sur les politiques d'enseignement supérieur et le développement des universités. Je vais essayer de faire une comparaison entre deux périodes de la vie universitaire québécoise. Et en mon sens, cette comparaison-là a pour but de bien éclairer comment, je dirais, les référents intellectuels et normatifs qui font de l'action publique, comment ce travail intellectuel a construit et transformé au cours des années la notion même d'inégalité. Le dernier élément de présentation, c'est que je voudrais m'excuser auprès des traductrices qui, étant donné que je risque d'aller vite par moment, j'augmente leur tâche de travail. Donc, excusez-moi d'avance. Donc voilà, voilà un peu la présentation. L'idée, c'est, on le plan, hein, c'est, on va te donner quelques points de repère, la comparaison entre les deux périodes et une conclusion générale sur à la fois les inégalités et sur les enjeux de l'action publique. Il y a, en fait, deux manières, probablement qu'il y en a plus, mais il y a au moins deux manières de traiter de la question des inégalités par rapport à l'enseignement supérieur. La première, c'est ce que j'appelle débusquer les inégalités, c'est-à-dire de faire un travail systématique ou qui permettrait et qui permet de saisir, en fait, quelles catégories sociales se retrouvent défavorisées par rapport soit à l'accès à l'école et à l'université dans notre cas, soit des inégalités dans l'école, c'est-à-dire des inégalités de persévérance, des inégalités de parcours ou des inégalités de réussite. Donc, c'est effectivement un mode d'étude et d'appréhension des inégalités qui est essentiel à faire, ne serait-ce que pour orienter l'action publique. Le deuxième mode, c'est ce que j'appelle contrer les inégalités. C'est plus de considérer les inégalités comme un élément faisant partie des politiques publiques, que ce soit les politiques gouvernementales ou que ce soit les politiques des institutions. L'idée est quelles pratiques et comment les inégalités sociales et scolaires sont prises et sont considérées dans l'action publique. C'est cette deuxième, en fait, ce deuxième mode qui est la trame fondamentale du propos que je vais vous livrer. Comme je le disais tout à l'heure, l'Université moderne québécoise, et en cela, parce que je veux bien être clair, en cela, pour moi, l'Université québécoise est à la fois porteuse, je dirais, d'universalisme, c'est-à-dire que les débats qui ont pu se dérouler dans l'Université québécoise ne sont pas nécessairement propres à l'Université, on les retrouve ailleurs, dans d'autres pays. Et je pense qu'en quelque part, l'exposé précédent de Sarah montre bien comment un certain nombre de ces enjeux ont eu lieu en Équateur, par exemple. En même temps, la situation québécoise est particulière. Je ne revendique pas le statut particulier du Québec, loin de là, mais il reste que par rapport, par exemple, aux autres provinces canadiennes, il y a des mouvements au niveau du Québec qui sont fort différents. Le dernier étant, par exemple, le fait que le mouvement étudiant de 2012, qu'on a appelé le printemps érable, ne s'est pas retrouvé dans les autres provinces canadiennes. Donc, c'est à la fois un mélange de spécificité et d'universalisme qui caractérise en quelque part la situation québécoise. Donc, la première période fondatrice de l'Université québécoise, c'est démarre grosso modo en 1960, finit en 82. J'ai appelé cette période l'Université en croissance, vous allez voir pourquoi. À l'époque, L'économie du Québec s'est largement transformée. On est face à une croissance des services, à un début de désindustrialisation de l'économie. Et en fin de la période étudiée, c'est la crise du pétrole et une situation qu'on avait peu connue au cours des 30-40 dernières années, soit une crise qui s'est finalement prolongée. Le deuxième élément important au niveau du contexte, c'est la reconnaissance que la société québécoise est une société urbanisée. Elle n'est plus catholique, ou elle sera de moins en moins catholique, elle sera de moins en moins rurale et agricole, et elle sera toujours francophone, mais c'est des francophones qui vivent en ville. Au niveau des luttes sociales de l'époque, et Paul et Dorval vont peut-être se rappeler de cette iconographie, c'est des changements de perspective importants au niveau de l'État, dans la mesure où il s'agit d'implanter et développer un État-providence au Québec. C'est aussi la montée du nationalisme québécois, entre autres en réponse avec le retard des francophones par rapport aux anglophones du Québec, mais par rapport aussi aux anglophones du Canada. C'est la montée de la pensée de gauche avec des multiples fractions qui se sont confrontées de façon systématique sur les campus universitaires, mais dans la société en général aussi. C'est la montée du féminisme, des luttes syndicales et aussi de la contre-culture. En 1960, le gouvernement libéral de l'époque décide de créer une commission d'enquête qu'on a appelée le rapport Parent, la commission d'enquête Parent. Et ce qu'il est important de voir, c'est que la réforme de l'éducation qui s'amorce à ce moment-là, qui va restructurer de façon importante l'université québécoise, met au premier plan la question de la lutte contre les inégalités sociales et les inégalités scolaires. Donc, elle est inscrite, en quelque part, cette lutte et cette volonté de contrer les inégalités. Elle est, en quelque part, inscrite aussi dans cette volonté de rattrapage. Au plan de ce qu'elle, de ce que ça veut dire au niveau de l'université québécoise, c'est des changements profonds. D'abord, il y a un réseau de 11 universités qui vont être créées. Ça s'appelle l'Université du Québec. L'UQAM est une des constituantes qui est créée en 1968. C'est l'agrandissement des universités existantes qui avaient été créées entre le 19e et le 20e. La dernière en date est en 1954 à Sherbrooke. On a parlé hier, un moment donné, de l'Université Concordia qui était l'Université Sir George William. Elle en faisait partie. On a créé à l'époque un conseil des universités qui devait, en quelque sorte, assurer une coordination du travail des universités. Et on a intégré les écoles normales et l'École des beaux-arts dans les universités pour, en fait, faire en sorte que l'ensemble de l'enseignement supérieur soit un enseignement universitaire et ainsi de ne pas avoir, en fait, un champ universitaire à deux composantes, comme il existe dans beaucoup de pays. L'autre élément, c'est et les innovations qui ont apparu à ce moment-là sont nombreuses. On a d'abord créé un système de prêts et bourses pour assurer l'égalité économique ou l'égalité financière à l'université, l'accès à l'université. On a aussi gelé les frais de scolarité à l'époque, et ça jusqu'à la fin des années 80. Il y a, dans les universités du Québec, dans le réseau des universités du Québec, la création d'une gestion paritaire des programmes, d'une gestion étudiant-professeur, qui a, en quelque sorte, changé les structures hiérarchiques au sein des universités. On a créé de nouveaux diplômes qu'on a appelés les certificats et qui ont été largement utilisés en éducation des adultes. On a créé des cours hors campus, c'est-à-dire que les universités allaient aux étudiants plutôt que les étudiants venaient à l'université. On a créé les services à la collectivité et comme après-midi, il va y avoir un exposé sur les services à la collectivité, je n'en dis pas plus, mais c'est clair que par rapport à la communication d'hier sur les universités engagées, les Engaged Universities aux États-Unis, on est dans les mêmes eaux. C'est l'ouverture sur l'interdisciplinarité dans les programmes. Et c'est aussi la création des programmes de transition sur le marché du travail, entre autres pour les femmes qui désiraient retourner ou s'inscrire sur le marché du travail. L'idée globale, c'est de lutter contre les inégalités géographiques, sociales et économiques. Par ailleurs, il y a deux autres caractéristiques, me semble-t-il, qui ont persisté à l'époque. D'une part, c'est que l'université sélectionne les étudiants. Donc, les étudiants peuvent faire une demande, peuvent être refusés ou acceptés. Et en même temps, les universités, une partie du financement des universités se fait par les frais scolarités, mais ces frais scolarités sont gérés par les politiques publiques et par le ministère de l'Éducation. Donc, en quelque sorte, du point de vue des modes de fonctionnement, on est bien dans un quasi-marché comme ça. Qu'est-ce que cela donne? On a évidemment, il y a un problème de technique, moi aussi, parce qu'il y a des trucs, les courbes n'apparaissent pas. Donc, il va falloir que vous me voyez sur parole. Grosso modo, quand on regarde les statistiques, des années 60 jusqu'aux années, fin des années 80, la fréquentation universitaire en nombre absolu a augmenté de façon vertigineuse, en particulier dans les universités francophones, mais aussi dans les universités anglophones, mais à un rythme beaucoup moins important. Le deuxième élément au niveau de ce qui s'est passé, c'est la croissance de la présence des femmes dans les universités. Toutefois, même si les femmes vont augmenter leur présence et qu'elles vont devenir majoritaires, en fait, au cours des années, il reste en quelque sorte qu'il y a une démocratisation ségrégative dans la mesure où les femmes continuent à être beaucoup plus nombreuses dans les programmes liés à des emplois traditionnels, qui sont les emplois d'éducation, de santé, etc. Autre élément important, c'est la croissance de la présence des personnes adultes. Grosso modo, encore là, vous allez devoir me croire sur parole. Dans cette période-là, très rapidement, 50% des étudiants avaient 25 ans ou plus. Donc, c'est les adultes qui ont été importants avec les cours du soir, les cours hors campus et dans les programmes de certification. Et un autre élément, c'est la montée des étudiants de la classe ouvrière ou des étudiants de première génération, c'est-à-dire des étudiants dont les parents n'avaient pas fait d'études universitaires. Par contre, même s'ils sont plus nombreux à aller à l'université, il reste qu'ils sont toujours, les taux d'accès sont toujours plus faibles pour les étudiants, pour ces étudiants et ces étudiantes qui viennent des milieux ouvriers ou qui viennent de familles dites de première génération. Des familles dont le capital scolaire était plus faible. Voici donc un portrait vraiment brossé très rapidement, mais qui va donner une idée du contraste de ce qui va se passer à partir des années de 1983, où là, on est effectivement dans ce que j'appelle l'université dans la tourmente. Et en fait, on ne sait pas quand est-ce que ça va finir. Depuis le 7 avril dernier, la situation est pour le moins marquée par une forte incertitude. Donc, premier élément à dire, rappeler le contexte général, c'est que la période débute par une profonde offre, de profonde crise de l'emploi. Et, en quelque part, on cherche dans tout ce processus à retrouver une croissance économique continue. Que ce soit à travers les changements dans les entreprises, avec le passage au post-fordisme, avec l'ouverture des marchés et donc la mondialisation des échanges économiques, avec les retombées sur la culture et l'ensemble des autres sphères de l'activité sociale, le redressement de la productivité des entreprises qui apparaît comme une nécessité au Canada. Les entreprises québécoises, canadiennes, sont en général réputées comme étant peu productives. Et on assiste à des relocalisations industrielles, il y a une désindustrialisation. Et c'est la montée du discours sur l'économie et la société du savoir qui, grosso modo, pour nous dire qu'il faut toujours plus d'universités pour utiliser une expression un peu caricaturale. Du point de vue de l'action publique en reconversion, l'État vise justement à soutenir la croissance économique continue à travers différents types de mesures. Et au niveau de l'éducation, on l'a vu avec le passage des politiques de la science dans les politiques d'innovation, c'est partout en Occident et dans beaucoup de pays du Sud la même chose. C'est aussi le développement d'une activité de formation non créditée, dite sur mesure. Il y a la lutte au déficit public et les coupures budgétaires relatives ou absolues qui ont lieu depuis la fin des années 80, mais surtout des années 90 à aujourd'hui. Régulièrement, on est dans cette situation. Et l'autre élément, c'est la montée au niveau de l'action publique, de la montée du nouveau management public, avec la croissance de la reddition de comptes, qui va conduire à se préoccuper des enjeux d'assurance qualité. Et pour les universités, ce qu'on a appelé les contrats de performance, je vais y revenir. Troisième élément, les enjeux. Les enjeux, 5 minutes, OK. Les enjeux, c'est les enjeux d'ordre budgétaire, lutte au déficit des finances publiques, les enjeux de rendement et d'efficacité et les enjeux de justice. Dans le cas des enjeux budgétaires, il faut dire que le discours dominant et les débats dominants autour des universités ont été des débats sur les finances publiques et ce qu'on a appelé aussi le sous-financement des universités québécoises par rapport aux universités canadiennes ou même aux universités européennes. C'est les enjeux de rendement et d'efficacité avec des pressions internationales, puis des éléments de reddition de comptes et des enjeux de justice. Parce qu'en quelque part, les questions des inégalités ont été aussi présentes. À ce titre, quels ont été les changements structurants? Au niveau du financement, il y a eu de différentes stratégies. Dégeler les frais de scolarité afin d'augmenter la contribution des étudiants. Et là, il y a eu différents moments où ce dégel a eu lieu. La deuxième stratégie, ça a été de refinancer les universités. En voulant atteindre, en quelque sorte, plus de résultats, entre autres au niveau de la réussite scolaire. Et la stratégie 3 qui a été mise en œuvre, c'est modifier le mode de calcul du financement public. Donc, l'autre élément, c'est ce que j'appellerais l'efficacité de la nouvelle gouvernance, c'est l'accentuation de la reddition de comptes et l'accentuation de la gestion. Dans tout ce débat, même si, dans le fond, ces nouvelles politiques semblent nous éloigner de l'enjeu des inégalités, en fait, les inégalités sont toujours présentes. C'est un changement dans la conception même des inégalités, où on a plutôt mis l'insistance sur la persévérance, la réussite des étudiants, et non pas seulement sur l'accès. Donc, il y a vraiment un changement même de la définition des inégalités à travers les politiques de la réussite et un déplacement important des actions. À ce niveau-là, on a vu dans les différentes universités se créer des centres d'aide pour les étudiants en difficulté, des pratiques de monitorat avec profs étudiants ou entre étudiants, des mécanismes de suivi plus serrés des étudiants, en particulier des étudiants qui ont des problèmes de scolarité. Et on a vu de l'innovation au niveau des enquêtes, de suivi des étudiants. Autre élément, c'est toujours autour des inégalités. Le grand enjeu, le grand moment où la question des inégalités est importante, c'est au moment du printemps érable, donc le mouvement étudiant 2012, où, en quelque part, la question des inégalités était présente dans les différents discours des protagonistes de ce débat. Comme il me reste 5 minutes, je ne peux pas tout dire, mais en quelque part, peu importe la nature ou en tout cas le récit d'action politique dans lequel les différents intervenants se trouvaient, d'une manière ou d'une autre, la question des inégalités était présente. Dans le cas du discours des recteurs pour qui l'Université québécoise dans l'économie du savoir était un enjeu fondamental, en fait, ce discours transformait les inégalités en disant que les frais de scolarité bas étaient en fait une subvention aux riches et dans quelque part, il était injuste de garder ces frais de scolarité-là bas, alors qu'à l'opposé, dans le cas de l'éducation universitaire à bien public, si on veut conserver l'éducation comme bien public, il faut aller vers la gratuité scolaire. Et d'ailleurs, un des protagonistes de l'époque vient de publier un bouquin sur la gratuité scolaire où il reprend ce cheval de bataille de façon systématique. Donc, dernier élément, c'est dans depuis la fin du débat et de la crise étudiante du printemps érable, dans le fond, on s'aperçoit que la question des inégalités est toujours présente. Elle a été présente dans toutes les opérations de sommet sur l'enseignement supérieur. Et après le sommet, il y a un certain nombre de décisions qui ont été prises, dont deux concernant cette question des inégalités, c'est l'indexation des frais de scolarité d'une part, et d'autre part, la transformation du programme de prêt et bourse. Je conclue j'avais des propos sur ce qu'il en était au niveau des inégalités, mais je vais conclure. Première conclusion qui ressort de cette comparaison historique, c'est que la lutte des inégalités est toujours présente. On peut bien, selon certains, être dans un régime d'action publique fondée sur le néolibéralisme. Il reste, en quelque part, la lutte aux inégalités est toujours présente dans les pratiques. Elle a changé d'allure, mais elle est toujours présente dans l'action publique québécoise, avec des contextes intellectuels et politiques différents. Dans le contexte d'État-providence, on l'a vu, c'est essentiellement un contexte d'innovation, institutionnel et organisationnel, et c'est un climat politique qui a été favorable à une mobilisation scolaire qui a traversé toute la société. Sous le régime du nouveau management public, on a vu des recompositions, en fait le mot recomposition devrait être au pluriel, des recompositions du concept d'inégalité, certaines pouvant être fort critiques ou fort problématiques, d'une part. On a aussi vu des actions concernant des populations ciblées pour améliorer l'accessibilité, entre autres au niveau des personnes dites avec handicap et depuis quelques années des pratiques autour des populations autochtones. Et on a vu aussi que l'enjeu des inégalités était un enjeu politique porté par la société civile. Et donc, entre les deux périodes, la question des inégalités est portée par des recompositions, des coalitions d'acteurs assez différentes l'une de l'autre. Et les deux dernières conclusions, c'est que pour comprendre la lutte aux inégalités, on doit à la fois mobiliser différentes échelles d'action sociale, le politique et le local. Quand le politique ne suit pas, en tout cas c'est l'expérience québécoise, le local s'est organisé pour qu'il suive ou pour le contrer. Et le dernier élément, c'est la lutte aux inégalités n'est pas terminée. Les inégalités socio-économiques, entre autres au niveau de l'accès selon les fractions de classe au Québec, est toujours présente. Et en quelque part, le choix de programme est toujours situé. Et il y a des catégories sociales comme les autochtones qui ont peu accès à l'université. Donc, l'agenda public devrait et doit, en quelque sorte, revenir et continuer à travailler sur l'inégalité, surtout que dans le Code du Québec, augmenter la population étudiante dans les universités suppose d'aller chercher cette population dans des catégories sociales qui n'étaient pas présentes dans l'université. C'était une diapo qui était facile. Voilà, je vous remercie. Et j'espère que le 5 minutes n'a pas été trop vite.
Merci beaucoup.